Vous écoutez RTL.
7h45, Olivier Mazerolle, vous recevez donc ce matin la maire socialiste de Lille, Martine Aubry.
Bonjour Martine Aubry.
Bonjour.
Avec la publication de cette tribune, Trop c'est trop, vous avez rassemblé un certain nombre de gens, qui ne sont pas tous vos amis d'ailleurs au sens strict du terme. Qu'est-ce que vous pouvez espérer? Ce n'est pas la première fois que vous dites au président de la République, il faut changer d'orientation, pourquoi vous écouterait-il maintenant?
J'ai pensé que c'était peut-être le moment de s'exprimer tout haut. C'est pas agréable, je le dis très simplement, de dire ce que l'on a à dire aussi fortement à un moment donné à des amis, parce que ce sont des amis qui aujourd'hui sont au gouvernement et à la présidence de la République. Mais je crois qu'il était temps de dire un certain nombre de choses, parce que d'abord, des décisions vont être prises sur la croissance et l'emploi, sur la déchéance de nationalité, sur les réfugiés, sur la loi El Khomri, mais aussi parce que nous ressentons la violence et la brutalité de ce que nous disent les gens. Et il faut à un moment donné dire tout haut, pour que demain il ne soit pas trop tard.
Il n'est pas conscient, le président ?
Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, bien sûr, aujourd'hui, le fait que le chômage ne diminue pas, même s'il stagne, et je m'en réjouis et je serais ravi qu'il puisse diminuer. Le fait qu'on ait eu ce débat, qui n'est pas un débat de gauche, sur la déchéance de nationalité, qu'on ait cette loi El Khomri, on va y revenir. Oui, il faut faire bouger le code du travail, mais en protégeant les salariés par de nouvelles protections et en rendant plus compétitives nos entreprises.
Mais quand même,
tout cela, il y a des réponses aujourd'hui. C'est aussi pour cela que nous avons voulu nous exprimer. Nous sommes la gauche progressiste, deux gouvernements qui nous voulons changer réellement les choses. Et je suis heureuse d'ailleurs.
Vous vous rendez compte ? Vous vous rendez compte, quand on lit votre texte, le marché de dupes du pacte de responsabilité, c'est lui qui l'a voulu, le pacte, le président. Oui. Le désolant débat sur la déchéance de la société, c'est lui qui l'a voulu, le président. Le serment du Bourget qui n'est pas respecté, c'est son serment à lui. Et il va dire, dans le fond, elle a raison, Martine Aubry et tous les signataires, je me suis trompé, je vais changer de pied.
J'ai vu François Hollande à plusieurs reprises, vous imaginez, depuis 2012. Je lui ai fait part, et nous l'avons fait part aussi dans des textes, du fait que nous pensions qu'il avait eu raison de faire une politique qu'on appelle de l'offre, c'est-à-dire améliorer la compétitivité des entreprises. Mais qu'on aurait dû faire en sorte que ces aides soient ciblées vers celles qui en ont vraiment besoin, celles qui sont dans la concurrence internationale, et qu'on devait imposer des vraies contreparties. Le Premier ministre lui-même a dit la semaine dernière, le compte n'y est pas. Alors faut-il encore continuer à ce que ce qu'il nous reste de ces 40 milliards aille vers les entreprises, ou faut-il au contraire remettre la bascule au milieu pour relancer la croissance? C'est cela dont on a besoin, la croissance, de l'emploi, par exemple en dotant les collectivités locales de fonds pour pouvoir investir vite. On a tous sous le coude des projets, ou en acceptant la réforme de Jean-Marc Ayrault, que moi j'ai toujours soutenu, de rapprochement dans l'impôt citoyen, de l'impôt sur le revenu et la CSG, ce qui aurait redonné du pouvoir d'achat aux catégories des salaires les plus bas.
Mais
voilà,
dites,
des mesures qu'il aurait fallu faire ou qu'on peut encore faire.
Mais les investissements publics, d'accord, mais on prend l'argent.
Où ? Mais sur les 40 milliards, on a déjà dépensé.
40 milliards qui restent du pacte de...
Non, les 40 milliards du pacte de responsabilité. Lorsque nous nous sommes exprimés, il y a plus d'un an maintenant, il restait 20 milliards. Nous disions, il faut que 8 milliards aillent encore vers les entreprises, celles qui en ont vraiment besoin, qui investissent dans l'avenir, qui embauchent et qui sont dans la concurrence internationale. Mais ce que nous disent aujourd'hui les entreprises, ce n'est pas un problème de compétitivité. Elles l'ont regagné grâce à la politique qu'a fait le gouvernement. Leurs marges sont celles d'avant la crise. Elles nous disent, on manque de demandes. Pourquoi ? Parce que le pouvoir d'achat stagne, ça c'est les ménages, et parce que les collectivités locales sont étranglées par la baisse des dotations. Donc ce que nous avons proposé, c'est effectivement que sur ce qui restait à l'époque 20 milliards, aujourd'hui ça doit être 10 à 12, une partie continue à aller vers les entreprises, celles qui jouent le jeu, celles qui en ont besoin.
Pas plus de dépenses.
Bien sûr que non. Nous sommes toujours situés dans le cadre budgétaire prévu par le gouvernement pour ne pas changer les grands équilibres sur lesquels nous sommes engagés en Europe.
Alors vous dites qu'il faut moduler les aides ou cibler vers les entreprises. Le Conseil constitutionnel dit non, c'est pas possible.
Non.
C'est tout le monde ou personne.
Non, le Conseil constitutionnel dit vous pouvez pas choisir un secteur et pas un autre. Mais vous pouvez dire, d'ailleurs c'est par exemple le cas du Crédit Impôt Recherche, vous pouvez dire des entreprises qui investissent dans des investissements d'avenir, sur les nouvelles technologies par exemple, nous pouvons les aider. C'est ce qu'on a fait sur le Crédit Impôt Recherche et ça marche très bien et c'est une très très belle réforme qu'il faut évidemment poursuivre.
La réforme fiscale, moi j'ai lu votre projet, jusqu'à 2 SMIC, on faisait les Français payer moins d'impôts ou c'était pratiquement égalité. Mais alors au-dessus de 2 SMIC?
Non.
Merci beaucoup.
Non. Ce qui était l'impôt sur le revenu n'était pas touché. Ce qui était touché, c'était la CSG.
Oui.
Aujourd'hui, la CSG...
Oui, mais au total.
Attendez, on dit, il y a 50% des Français qui ne payent pas d'impôt. Ils ne payent pas l'impôt sur le revenu, mais ils payent la CSG. Mmh. Et cette CSG, et beaucoup le disent, elle est proportionnelle, elle n'est pas progressive. Mmh. Et là, ce que proposait Jean-Marc Ayrault, et nous soutenions cette proposition, qui était d'ailleurs dans le projet socialiste, c'est qu'effectivement, on mette de la progressivité dans la CSG pour effectivement permettre d'être plus juste et prendre en compte le quotient familial et la situation de la famille, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
La loi El Khomri, vous réclamez son retrait total ?
Je crois réellement qu'on est rentré dans ce sujet, et je ne sais pas pourquoi on l'appelle El Khomri, je ne pense pas que c'est elle qui a fait cette loi.
Enfin, bon.
Non, mais disons les choses quand même simplement. Moi j'y retrouve les vieilles recettes, non pas du MEDEF, hein, du CNPF. En 91-93, déjà, beaucoup de ces propositions étaient faites. Pas celles que nous demandent les entreprises. Les entreprises, vous savez, regardez le dernier accord Renault, c'est des accords équilibrés qui accroissent la compétitivité, mais qui en même temps protègent les salariés.
Mais...
Donc je crois qu'aujourd'hui, sur le licenciement, par exemple, c'est une fragilisation comme on n'en a jamais vu. C'est l'employeur qui pourra dire « J'ai une bonne raison économique. Ah bon, vous voulez gagner un peu plus de compétitivité, faire un peu plus de rentabilité ? Très bien,
donc
il y a licenciement économique. » Moi, je ne parle jamais comme cela. Je veux qu'on discute et qu'on reprenne les choses.
On n'avait pas faire du François Hollande, peut-être bien que
ah
oui,
non, mais,
peut-être bien que non.
Non, mais parce que je pense qu'il y a peut-être deux ou trois dispositions, effectivement, qu'on peut maintenir. Mais il y a aujourd'hui, il faut faire bouger le code du travail. Quand j'ai fait la loi sur les 35 heures...
On vous reproche encore aujourd'hui.
Oui, bien évidemment. C'était une loi qui apportait des droits aux salariés, mais c'était une loi qui a permis une souplesse sans précédent, l'ont dit les chefs d'entreprise. L'annualisation du temps de travail, le travail le week-end, le fait de pouvoir faire des forfaits cadres, pour les cadres, des forfaits durée du travail. Les Allemands en rêvent de tout cela. Ce sont des souplesses. Il y a aujourd'hui une grande réforme que nous avons défendue avec mes amis, la sécurité sociale professionnelle.
Et il y a le CPA,
tout au
dit
long
François Hollande, le
mais
compte personnel d'activité.
Oui, mais le CPA est très restreint. Il fallait justement être moderne, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire dire, il faut des protections collectives pour tous. C'est le fait que chacun peut avoir un compte épargne, formation, pour pouvoir l'utiliser, pour
d'accord.
progresser, pour ne pas tomber dans la case chômage en cas de licenciement.
Martine Aubry.
Et attendez, je finis juste, et faire laisser les choix individuels. La modernité, c'est ça. Des protections collectives et laisser les choix individuels aux salariés.
Martine Aubry, Manuel Valls dit sur le licenciement économique, on ne fait que ce que font, par exemple, les Allemands, les Italiens, M. Renzi, qui vient, lui, de faciliter le licenciement avec davantage d'aide aux entreprises, et ça fait baisser le chômage. Pourquoi la gauche française ne pourrait-elle pas faire ce que font la gauche allemande, la gauche italienne ?
J'ai lu le blog de Manuel Valls, je suis prête au débat avec lui. Il y a beaucoup de contre-vérités.
Si on l'invite à venir débattre avec vous sur RTL,
sur cette question sur les licenciements. Oui, bien sûr. Sur cette question sur les licenciements. Qu'on regarde ce que coûte un licenciement en Allemagne. Qu'on regarde le temps qu'il faut pour licencier par rapport à la France. Bien sûr, il y a des améliorations à faire. Donc, je ne dis pas du tout qu'il ne faut rien faire. J'ai fait des propositions. Mais y compris sur cette question sur les licenciements. Mais on ne me fera pas croire. On ne me fera pas croire qu'on rendra les entreprises plus compétitives en fragilisant les salariés. Il y a aussi un sujet, la nouvelle économie. Elle est formidable d'opportunités, mais elle crée aussi de la précarité. Il faut traiter cette question.
Macron
c'est ça la modernité.
Et vous avez dit Macron ras-le-bol.
Oui, c'est vrai. Je le redis. Parce qu'on ne peut pas, quand on est ministre de la République, attaquer les fonctionnaires comme il l'a fait, dire devant la City de Londres pour se faire applaudir par les financiers...
Mais il veut traiter le numérique.
Non. Dire qu'il est très heureux parce que les jeunes Français préfèrent être chefs d'entreprise que fonctionnaires. Moi, dans ma ville, j'ai des jeunes qui créent des start-up, je suis ravie. Mais j'ai aussi des jeunes qui veulent être infirmiers, policiers. Et il en faut, et j'en suis ravie aussi. Voilà pourquoi j'ai dit ras-le-bol. Parce qu'on ne peut pas opposer sans arrêt les Français entre eux. On ne peut pas dire que d'un côté, il y a les modernes qui vivent dans un monde qui ne connaissent pas ce que vivent aujourd'hui les gens. Et il faut entendre, encore une fois, ce que disent les gens et cacher cette vérité, mettre la poussière sous le tapis. Quoi.
Dans le fond, vous êtes une femme de conviction. Manuel Valls, il a des convictions aussi. Pas du tout les mêmes.
Non.
Mais voilà. Et dans le fond, vous demandez à François Hollande de trancher.
Non, moi je ne demande pas à François Hollande de trancher, je lui ai déjà...
Pourquoi ? Parce qu'il ne pourrait pas ?
Bien sûr que si, sur la politique économique, nous avons eu maintes débats, je suis même allée le voir avec Jean-Marc Ayrault, nous partagions ce point de vue et nous n'avons pas été entendus. Mais il y a encore un budget et moi jusqu'au bout, je défendrai cette idée. Sur la déchéance de nationalité, oui, c'est le président qui a lancé cette... et qui s'est mis dans la difficulté parce qu'on a très vite vu que soit on crée une inégalité pour les binationaux et qu'on remettait en cause une des valeurs de la République qui est le droit droit du sol et qu'on crée une inégalité, soit on crée des apatrides. Ben, il faut que le président
dise... demander de renoncer.
Mais non, mais oui, mais on peut trouver d'autres mesures. La déchéance de citoyenneté que proposent les parlementaires.
On est à un an de la présidentielle. Si François Hollande persiste dans sa ligne politique, qu'est-ce que vous dites ? C'est même pas la peine qu'il se représente, il est battu d'avance ?
Je pense, je le dis très simplement, que pour que un d'entre nous, quelqu'un qui représente la gauche, ait une chance de gagner, il faut d'abord régler le présent, aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des résultats. Il faut que la gauche moderne, car nous représentons la gauche moderne. Je suis heureuse d'être dans cette tribune avec des hommes et des femmes de gauche qui sont très différents. Ce ne sont pas des frondeurs, ce sont des hommes et des femmes qui portent une vision progressiste, mais qui ont envie de gouverner, qui ont envie de réussir pour notre pays qui a tant d'atouts, mais aussi des intellectuels qui viennent vers
avec
nous.
Avec cette politique-là, c'est la défaite de la gauche assurée.
Je crois réellement que si effectivement on ne redresse pas les choses sur la croissance et l'emploi, je crois vraiment que si on fait cette loi, qui n'a rien d'une loi de gauche, mais qui est une loi même que certains hommes politiques à droite critiquent parce qu'elle met à bas des éléments essentiels du droit du travail.
Dernière question, Martine Aubry.
Si nous ne sommes pas capables de réorienter l'Europe et d'accompagner ceux qui veulent la réorienter, la France perd aujourd'hui.
Dernière question, Martine Aubry. Si François Hollande ne se présente pas à gauche, n'ont émergé comme leader potentiel possible qui marque les esprits, Manuel Valls, vous n'en voulez pas, Emmanuel Macron, vous n'en voulez pas, et vous, ça vous oblige cette tribune à vous engager peut-être à un moment donné.
Je m'engage en parlant du fond.
Oui, mais
vous savez, pour moi,
mener le combat ultérieurement.
Oui, mais pour moi,
même si c'est pas votre objectif aujourd'hui.
Non, pour moi, la politique, c'est d'abord le débat de fond, accepter la démocratie. C'est ce que je demande aujourd'hui au gouvernement.
Il faut un leader.
Oui, et bien.
Et vous incarnez.
D'accord. Quand on aura régler le présent, on verra qui on choisit pour demain. Et là, il faut préparer l'avenir. Et toutes les initiatives qui permettent...
Vous ne fermez pas la porte.
Ce n'est pas du tout mon projet, je le dis très simplement. Mon projet, c'est d'aider la gauche à réussir. C'est ce que j'essaie de faire depuis 2 ans. J'ai dit, ce n'est pas mon projet. Voilà, c'est clair. Bon. Donc, mais pour réussir demain, et moi je souhaite qu'un homme ou une femme de gauche réussisse demain, il faut régler le présent, il faut qu'on travaille tous ensemble, et c'est pour ça qu'il y a des belles initiatives dans le pays, pour pouvoir proposer un projet aux Français, un projet de gauche, mais un projet qui prend en compte les réalités aujourd'hui du monde. Les difficultés de la gestion.
Martine Aubry, vous allez retrouver dans un instant Yves Calvi et les auditeurs de RTL.